Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à poutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste, les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
La Fée est déjà sortie depuis mi-septembre. C'est le troisième long métrage tourné par la triplette que forment Dominique Abel, Fiona Gordon et Bruno Romy. Alors, les deux premiers longs métrages intitulés L'Iceberg, tourné en 2005, et Rumba, réalisé en 2008, mettaient déjà en scène les mêmes personnages fictifs, Dom et Fiona. Alors, si je n'ai pas vu L'Iceberg, j'avais beaucoup apprécié Rumba, l'histoire d'un couple d'enseignants, lui prof de sport atypique, elle prof d'anglais délirante, deux amoureux de la danse de salon qui malheureusement sont séparés par un accident de voiture. Un film à la Tati, fait de bouts de ficelle où le langage fonctionne à l'économie, les situations sont burlesques, absurdes, avec une bonne dose de merveilleux et de poésie. Bref, une vraie fraîcheur dans le cinéma qui s'enlise parfois dans les scénarios convenus. Et puis tiens, on écoute un extrait du cours d'anglais de Rumba.
My dog likes rice.
My dog likes rice.
My dog smiles when he sees rice.
My dog smiles when he sees rice.
Around and round his ration of rice, my dog rowdily runs.
Around and round his ration of rice, my dog is not rice.
Good.
Alors pourquoi parler de Rumba? Déjà parce que si vous ne l'avez pas vu, eh bien il est disponible en DVD, mais la ressemblance avec La Fée est surtout frappante. C'est la même recette, toujours un couple, Fiona et Dom, toujours des situations qui les empêchent de vivre sereinement leur histoire. Mais si Rumba insistait sur le couple qui était de chaque plan et qui rencontrait parfois quelques personnages, ici le couple est confronté à davantage de personnages secondaires et l'histoire prend un peu plus d'épaisseur que dans Rumba. Dom est un grand gaillard, tout sec, et est employé comme veilleur de nuit dans un hôtel. Fiona, elle est fine, elle est rousse, elle arrive pieds nus dans cet hôtel et se présente comme une fée, et va même plus loin puisqu'elle propose à Dom, qui n'en croit pas un mot, de faire trois vœux. Un événement inattendu et trivial va les faire basculer tous les deux dans une histoire incroyable. Et comme c'est une histoire incroyable, eh bien, il se permet tout, de jouer avec le vieux cinéma où la course-poursuite en voiture est du toc, puisqu'on voit bien que les acteurs jouent devant un écran qui passe des images de route, de vitesse. De même, quand ils plongent dans la mer, ils se retrouvent au fond de l'eau, dans un décor carton-pâte, et se lancent dans une chorégraphie toujours burlesque, mais jamais ridicule. Alors ce qui change ici aussi par rapport à Rumba, c'est qu'il se retrouve dans la ville, celle du Havre, avec son port, sa plage où arrivent les égouts. Qu'il se retrouve dans un bar au doux nom de l'amour flou, si flou que ce qui s'y passe à l'intérieur n'a rien de bien réaliste. Alors parmi les personnages secondaires, on aperçoit aussi comme un fil rouge trois garçons noirs dont le rêve est de partir en Angleterre. Des rêves, des vœux, réalisables ou non, il y en a dans La Fée. Il y a du rire, de la simplicité, des trucages enfantins, des fantasmes enfin réalisés, et puis des envies contraires. C'est un univers donc burlesque, proche de Tati, Chaplin, Laurel et Hardy. On vous demande de déposer votre sens critique à l'entrée de la salle, de vous laisser bercer par les invraisemblances, de vous laisser porter par le merveilleux et la poésie d'un monde qui n'existe pas, mais de prendre aussi toutes les petites piques adressées au monde dans lequel on vit, car La Fée est un film contemporain, moderne, avec les moyens de l'artisanat, ce qui le rend presque indémodable. Donc, autant dire que je le conseille chaudement, ce film. Alors, il m'a fait beaucoup moins rire que Rumba, j'avoue. Enfin, je trouvais que le rythme de Rumba, la première demi-heure de Rumba, était irrésistible. Là, on rit moins, mais on rit un peu plus souvent. Disons que je trouve que le scénario est bien mieux amené et que les situations burlesques s'enchaînent mieux. Voilà.
D'accord.
En tout cas, c'est un très bel ouvrage. Et puis voilà, il y a plein d'inventivité. Ils ne s'embêtent pas. Ils font des trucages qui se voient à 10 km, mais en même temps suffisamment voilés pour que ce soit appréciable et drôle. Et puis voilà, ils ajoutent aussi de la danse, parce que ce sont deux danseurs, je crois, à l'origine. Voilà, donc ils ajoutent des petites chorégraphies comme ça, complètement enlevées. l'occasion pour nous de... Alors, je ne peux pas passer la bande-annonce parce que comme c'est un film burlesque, c'est très visuel. Et là, alors j'ai retenu, il y a souvent un thème musical qui revient, mais je n'ai pas à rechercher. Mais comme j'avais bien aimé la musique de Rumba et que je trouve qu'elle envoie aussi bien finalement que le nouveau générique de Cinérama, on fait la petite pause avec la musique extraite de Rumba. Donc c'était le deuxième film du duo Dominique Abel et Fiona Gordon, aidé de Bruno Romy.
Je vais enchaîner sur un autre film nettement moins féerique. On va parler de Présumé coupable, qui est déjà sorti depuis 2 semaines sur vos écrans. Alors l'histoire, comme tout le monde le sait, est tout simplement tirée de la pire erreur judiciaire de la fin du XXe siècle. Car il faut bien se rappeler que même si l'on s'insurge en France de l'affaire Troy Davis, de tous les défauts de fabrication de la justice américaine, notre système à nous est loin d'être sans faille. Alors l'affaire d'Outreau, elle est du nom de cette petite ville du nord de la France où se sont produits les faits. En effet, un enfant a été violé par ses propres parents et il a par la suite accusé une quinzaine d'autres personnes de pédophilie sans aucune preuve. Confié à un jeune juge trop ambitieux qui compte bien faire ses armes avec cette affaire retentissante, la mise en examen de tous les suspects va virer au cauchemar malgré le discours incohérent des accusateurs. Eux-mêmes coupables des pires atrocités, les suspects sont d'entrée de jeu présumés coupables et écopent immédiatement d'un traitement sans aucune faveur. Ainsi, Alain Maréco, dont on suit l'histoire à partir de, son arrestation, va subir garde à vue, interrogatoire et emprisonnement, comme s'il avait d'ores et déjà reconnu sa culpabilité.
Je vais voir. C'est quoi, Snoopy ?
Oui, c'est vrai.
Qu'est-ce qui se passe ?
Vous êtes bien, monsieur Maréco ?
Oui, c'est moi, pourquoi ?
Commissaire Dury. À partir de maintenant, vous êtes en garde à vue. Nous allons procéder à une perquisition.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous avez une commission rogatoire ?
Fabrice Burgot, juge d'instruction.
Maman !
Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Qu'est-ce que vous me reprochez exactement ?
Vous et votre épouse êtes accusés de viol sur mineur de moins de 15 ans.
Mais lâchez-la !
Je t'aime.
T'inquiète pas, ils sont trompés. Ils sont passés à manger.
Hein ?
Mon amour.
Je t'aime, ma puce. Je t'aime ! Est-ce que je vais enfin savoir précisément pourquoi je suis là ?
Alors, vous refusez toujours d'avouer ?
Évidemment. J'ai rien à voir avec toutes ces horreurs.
Je comprends rien de ce qui m'arrive.
J'ai l'impression de vivre un cauchemar. Vous êtes en train de commettre une énorme erreur judiciaire.
défoncer toute ma vie. Pourquoi j'irais faire des saloperies comme ça?
Il n'y a aucune preuve matérielle, seulement des allégations.
Maintenant, je peux pas retourner là-bas, je vous en supplie, je tiendrai pas.
Faut que vous teniez le coup jusqu'aux assises. Je vous promets qu'on gagnera.
J'ai rien fait de tout ça.
Alors, le film de Vincent Garenc, adapté du livre écrit par Alain Marécot lui-même, est bien sûr entièrement dévoué à son personnage principal. Il en épouse la cause et appuie sur tous les aspects douteux de cette enquête bâclée. Avec un excellent rythme et une mise en scène qui parvient à s'échapper un peu de l'académisme habituel du film de procès, le film réussit à ne pas être qu'un simple écrin pour l'interprétation de Philippe Torreton. Car comme prévu, la performance de l'acteur éclipse absolument tout, que ce soit ses précédents rôles ou ses partenaires dans le film. Présent d'un bout à l'autre, on lui doit en grande partie la réussite et l'efficacité du film, parfait pour donner chair à un homme dont on ne connaît finalement que l'image médiatique. Il incarne dans toutes ses souffrances celui qui n'était jusque-là qu'un nom imprimé dans les journaux. Le calvaire qu'Alain Marécot va endurer aurait presque semblé excessif s'il avait été écrit dans un scénario. Au cours des 3 ans que dureront son emprisonnement, il perdra la garde de ses enfants, son cabinet d'huissier et son travail, sa femme qui divorcera et sa mère qui en mourra. Alors bien sûr, on ne peut s'empêcher de faire un parallèle avec Omar Mathieu de Roche Dizem, dont on avait parlé en juin. Tous les deux tournent autour d'un fait divers marquant et d'une erreur judiciaire grave. Tous les deux défendent jusqu'au bout l'innocence de leur personnage et tous les deux bénéficient d'un acteur principal qui semble porter à chaque image une étiquette César. Mais Présumé coupable prodigue une tension et une angoisse bien plus prenantes. Le réalisateur parvient à saisir le spectateur et à l'entraîner dans la tourmente avec son personnage, ne lui laissant jusqu'à la conclusion, aucun répit. Il s'apparenterait même davantage à Hunger, ce film de Steve McQueen, sur le leader Bobby Sand, qui avait protesté contre son incarcération en arrêtant de se nourrir, et ce jusqu'à en mourir. Alors, hormis la similarité des faits racontés, les deux films filment cette grève de la faim de la même manière, comme un point culminant où se confondent la mort et le réel. Si ce n'est pas franchement ce qu'on ira voir pour se détendre non plus, il a du moins le bon goût de ne pas se contenter de son contenu malsain pour attirer l'attention du spectateur en osant une mise en scène largement au-dessus de la qualité téléfilm. Donc c'est encore visible un peu partout.
Cinérama, je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Maintenant, Marine, tu vas nous parler...
Justement des titres de films, de la manière dont ils sont changés. Et il y aurait beaucoup à en dire, parce que donc, tout comme une affiche ou une bande-annonce, le titre sert bien entendu à attirer les spectateurs, mais en même temps, le cinéma étant supposé être un art, et non un simple objet de consommation, le titre se devrait aussi d'être un aboutissement de cette création. Or, ce n'est que rarement le cas, et les titres se retrouvent souvent amputés de leur sens premier, sacrifiés sur l'autel de la fréquentation des salles. Alors certes, on ne peut pas traduire mot à mot tous les titres, cela donnerait des intitulés peu engageants et pas très littéraires. Par exemple, si je te dis « conducteur de taxi ».
Ouais, bah non, ouais.
Ça serait la traduction de « taxi driver », ce qui est assez moyen quand même. Ouais. Ou par exemple, un autre exemple, « pas de pays pour les vieux ».
D'accord, oui.
Oui, ça serait la traduction de « no country for all men ». Ouais. Encore une fois, ce n'est pas très engageant, c'est pas forcément ça qui va attirer les spectateurs. Mais tout de même, la langue française est l'une des plus fournies en vocabulaire et nous ne sommes pas à court de belles expressions imagées pour rendre compte au mieux de l'âme d'un film. Et pourtant, non seulement les distributeurs ne se foulent pas à trouver des titres évocateurs en français, mais ils vont même jusqu'à remplacer un titre anglais par un autre titre anglais. Alors c'est simple, autant prendre le spectateur pour en demeurer jusqu'au bout et lui fournir un titre avec des mots anglais qu'il sera en mesure de traduire tout seul. À savoir, trip, bad, girl, American, bref, que des mots compréhensibles qui vont l'appâter. Ainsi, Very Bad Trip 1 et 2 s'intitulent en fait The Hangover, à la base, la gueule de bois. The Boat That Rock est devenu Good Morning England. Get Him Geek est devenu American Trip. Et Bring It On devient American Girls.
Ah oui.
Et au final, tous les titres se ressemblent et nous donnent l'impression que les mêmes films ressortent chaque année. Là, j'ai vraiment cité que quelques exemples, mais y en a des dizaines et des dizaines comme ça, quoi. Donc le plus significatif, c'est même l'emploi sans limite du mot « sexe » dans les titres. En effet, 9 films sur 10 qui sortent en France avec un titre utilisant le mot « sexe » n'a pas du tout le même titre en version originale. Alors est-ce que c'est les anglophones qui sont puritains ou les Français qui ont l'esprit mal tourné ? L'année 2011 aura quand même battu un record Sex Friends, Sex Entre Amis, Sex Dance, Sexy Dance, pardon, Sex List et We Want Sex Equality. Vous n'avez que l'embarras du choix. À savoir que Sex List s'intitulait à la base What's Your Number? Quel est ton numéro? Mais cela devait paraître un peu trop osé. Sexy Dance s'intitulait Step Up, Sex Entre Amis s'appelait sobrement Friends with Benefits. Et les distributeurs du film No Strings Attached ont dû penser qu'avoir Nathalie Portman en petite culotte sur l'affiche n'était pas suffisant, puisqu'ils ont transformé le titre en Sex Friends, ce qui ne laisse pas trop place à l'imagination. Et sans oublier bien sûr nos amis anglais qui ont vu le film Made in Dunningham changé en We Want Sex Equality, afin que même un étudiant de Paul Valéry soit en mesure de traduire le titre. Cette tendance ne date pas d'hier. Rappelez-vous les années 90, avec ces monuments du 7e art, Sex Crimes, en réalité qui s'appelait Wild Things, Sex Attitude, qui s'appelait Body Shot, et le fameux Sex Intention, qui ne veut rien dire, puisque le titre était en fait Cruel Intention. Sachant en plus que Sex Intention, c'est écrit sexe en français, avec un E au bout, donc ça ne veut absolument rien dire, même la syntaxe est mauvaise. Et sachant que lorsque l'on a trouvé un joli titre avec sexe dedans, on en fait trois à la suite. Et cela nous donne de bien jolies franchises pleines d'amour. Sex Crimes 1, 2 et 3, Sex Intention 1, 2 et 3, etc. Donc c'est à croire que l'on prend les jeunes spectateurs pour des créatures en rut et sans encéphale. Le dernier American Pie, par exemple, avait pour sous-titre américain American Pie, les sex... Pardon. Avez-vous en sous-titre français American Pie, les sex commandements, alors qu'en réalité, il s'appelle American Pie, The Book of Love. Mm-hmm. Aucun rapport.
Oui, une vision romantique.
Voilà. Eh oui. Et la palme revient probablement à ce merveilleux titre, puisant son inspiration à la fois dans la télé-réalité et dans les fantasmes adolescents. Sex Academy, un chef-d'œuvre américain qui avait pourtant, à la base... un titre anglais qui évoquait presque le mouvement du surréalisme. This is not another teen movie. Ceci n'est pas un énième film pour adolescents. Et on l'a bêtement transformé en Sex Academy.
Mmh. Alors voilà. ça aurait eu de l'impact en fait en français.
Bien sûr, le titre était beaucoup plus évocateur. C'était petit peu plus long, mais bon, il y avait quand même possibilité d'en faire quelque chose de bien, quoi.
Oui.
Bon, après, le film était quand même un AV, mais.
Ça, par contre, ça ne change pas. Hein. Titre modifié ou pas, le film vaut ce qu'il vaut. Hein.
Ouais, par ailleurs, tu parlais des films allemands qui étaient un peu. Qui étaient rarement drôles quand ils arrivaient en France. Je suis tombée sur un film de 2001 allemand qui est sorti en France, qui est apparemment un gros navet, qui est l'équivalent d'American Pie, mais allemand, qui s'appelle Mädchen, Mädchen. Donc, les filles.
Enfants, les filles.
Enfin, les petites filles, les jeunes filles. Et bien, en France, ils ont changé ça en Girls and Sex.
Carrément.
Voilà, donc un film allemand, il donne un titre anglais, Girls and Sex, c'est vendeur.
Merci Marine pour toutes ces recherches pointues.
On continuera.
On continue d'ailleurs avec la musique, on fait la petite pause. Qui s'impose dans Cinérama, c'est quoi?
Eh bien, on reste encore dans du David Lynch avec une chanson extraite du film Mulholland Drive.
Why I love you, the way you hold my hand, your laughing eyes, the way you understand your secret sighs. Part.